Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Kawax ! Tu peux nous rappeler la définition de Kawax, Liliane ? Ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot, mais la deuxième condition au Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est chiant comme tout, je te l'accorde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante.
Pensez que la philosophie aide à mieux vivre, ou au moins apprend à mourir. Voici ce qu'en dit Wittgenstein. Le but de la philosophie est la clarification logique des pensées. La philosophie n'est pas une théorie, mais une activité. Une œuvre philosophique se compose essentiellement d'éclaircissements, et la philosophie doit rendre claires et nettement délimitées les propositions qui, autrement, sont troubles et confuses. Clarifier les propositions obscures, c'est ce à quoi s'attellent quotidiennement les membres de l'équipe des Nouveaux Chemins, Colomba Grossi, Lucie Tardy, Antoine Ravon, Marianne Chassor et Marie Aubert. Avec Midia Portis-Guérin à la réalisation cette semaine, Edouard Rubinstein à la prise de son et Géraldine Mosna-Savoie que vous retrouverez à 10h51 pour ces deux minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Quelques mots tout à l'heure sur le philosophe américain Hilary Putnam qui nous a quittés dimanche le 13 mars à l'âge de 89 ans.
Hilary Putnam, quelle bonne idée. Et ce sera donc à 10h51. L'usage des mots et le pouvoir du langage, deuxième temps. Après Éric Marty qui hier vous a accompagné dans l'exploration jouissive mais néanmoins angoissée du langage par Roland Barthes, avant Dominique Lestel qui se demandera si l'on peut comprendre le langage animal demain, et Hervé Letellier qui mettra en pratique les règles de l'oulipo, ça ce sera jeudi, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Élise Maroux, enseignante de philosophie contemporaine et d'histoire de la philosophie moderne à l'université Paris-Sorbonne, venue aujourd'hui pour vous dissiper les ombres autour de la pratique philosophique, c'est-à-dire langagière, telle qu'elle est mise en œuvre par Ludwig Wittgenstein. Bonjour à vous Élise Maroux.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Pourquoi devrions-nous dire si fort et avec tant d'ardeur ce que nous sommes, ce que nous voulons ou ne voulons pas ? Considérons-le avec plus de froideur, de distance, d'intelligence, de hauteur. Disons-le comme cela peut être dit entre nous, si discrètement que le monde entier ne l'entende pas, que le monde entier ne nous entende pas. Et surtout, disons-le lentement. Cette préface vient tard, mais non trop tard. Qu'importe au fond, 5 ou 6 ans. Un tel livre, un tel problème ne sont pas pressés. En outre, nous sommes tous deux des amis du lento, moi et mon livre. On n'a pas été philologue en vain, on l'est peut-être encore, ce qui veut dire professeur de lente lecture. Et finalement, on écrit aussi lentement. Maintenant, cela ne fait plus partie de mes habitudes, mais aussi de mon goût. Ne plus jamais rien écrire qui n'accule au désespoir toutes les sortes d'hommes pressés. La philologie, effectivement, est cet art vénérable qui exige avant tout de son admirateur une chose, se tenir à l'écart, prendre son temps, devenir silencieux, devenir lent, comme un art, une connaissance d'orfèvre appliquée aux mots. Un art qui n'a exécuté que du travail subtil et précautionneux et n'arrive à rien s'il n'y arrive lento. C'est Nietzsche qui ouvre cette émission, Élise Marou, sur Wittgenstein. C'était l'avant-propos, le paragraphe 5 de l'avant-propos d'Aurore. Et cet éloge de la lenteur dans l'écriture n'est pas sans lien avec la méthode que Wittgenstein met en œuvre dans ses recherches philosophiques.
Oui, en effet, je tiens beaucoup à cet écho d'Aurore à Wittgenstein qui dit lui-même dans ses remarques mêlées que celui qui gagne la course en philosophie est celui qui arrive le dernier et que les philosophes devraient se saluer entre eux en se disant « prends ton temps ». Donc ce qui est intéressant dans l'écho, je pense, ce qui désamorce en tout cas des idées reçues sur la méthode de Wittgenstein, quand on s'immerge véritablement dans ce qu'il fait plutôt que dans ce qu'il dit qu'il fait, c'est qu'il y a une lenteur à observer dans l'ordre de l'écriture pour le philosophe. Un même problème philosophique qui est abordé selon plusieurs facettes, selon toutes ses dimensions, en fonction de ses différents usages. Et il y a aussi une exigence vis-à-vis du lecteur qui est celle de la patience. Le lecteur des recherches philosophiques, le lecteur du Tractatus, le lecteur des derniers écrits, doit prendre le temps de s'immerger dans ce que Wittgenstein appelle dans les années 30 la boue du problème et ne pas le court-circuiter. Donc il ne s'agit pas du tout de dissoudre des pseudo-problèmes philosophiques, de montrer la vanité ou la vacuité des inquiétudes qui naissent des obsessions langagières, mais au contraire de prendre la mesure de leur profondeur. Et en ce sens, Wittgenstein n'est pas du tout un philosophe des pseudo-problèmes. Il est au contraire celui qui leur redonne toute leur vigueur, toute leur vivacité, toute leur puissance. Il n'est pas non plus un philosophe du langage.
Voilà, ce n'est pas un philosophe du langage. Ça veut dire que pour lui, le langage n'est pas tellement un objet d'étude que, disons, le moyen par lequel il va essayer d'exprimer sa pensée. Mais il y réfléchit. Il y a une forme quand même d'auto-réflexion sur sa propre démarche philosophique.
Alors c'est toute la difficulté. En effet, il n'est pas, le langage n'est pas un objet, ce n'est pas non plus un thème. Mais pour Wittgenstein, en réalité, parler nous est aussi naturel que boire ou manger. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il y a une forme de naturalisme ou de réduction naturaliste qui soit mise en jeu ici. Cela signifie qu'il est difficile de prendre la mesure de l'intimité avec laquelle le langage imprègne nos formes de vie. Donc, à ce titre, les usages langagiers, les concepts que nous mettons en œuvre chaque fois que nous disons quelque chose, tissent un motif dans l'existence qui est d'une profondeur extrême.
Mais cette question-là de comment dire ce que nous voulons dire, on va y revenir puisqu'il pose la question frontalement, soit du choix des mots à notre disposition pour exprimer une pensée, soit la fabrication de la pensée dans et par ces mots, on la retrouve quand même tout au long de son œuvre, que ce soit dans le Tractatus et ensuite dans les recherches philosophiques, on a tendance à bien distinguer entre un premier et un second Wittgenstein. Je ne sais pas ce que cette distinction vaut d'ailleurs.
Alors, pour vous répondre, il faut rappeler ici que ce que va faire le philosophe pour Wittgenstein, du Tractatus aux recherches, il y a là une continuité très nette, c'est rendre, si ce n'est transparent, du moins synoptique, les usages de notre langage, puisque par une aporie du plus proche qui est extrêmement, qui est cette fois-ci en écho à Saint-Augustin, Saint-Augustin disait, quand on me demande ce qu'est le temps, je crois le savoir, mais dès que je dois l'expliquer, les mots me manquent, même si la situation n'est pas exacte. Pour Wittgenstein, il en est de même pour le philosophe grammairien. Il s'agit de décrire, justement pour accéder à la clarté, les usages qui, parce qu'ils nous sont devenus trop familiers, trop coutumiers, doivent être mis à distance dans l'activité même descriptive qui est celle du philosophe. Et c'est en ce sens que la philosophie n'est pas du tout théorétique ou théorique, mais qu'elle est bien une activité. Le philosophe, et ça c'est valable aussi du Tractatus aux recherches, ne nous fournit pas un lehrbuch, un manuel. Il ne s'agit jamais d'un manuel d'enseignement. Par contre, il s'agit d'enseigner malgré tout. Et c'est ça l'effet de la lecture Wittgenstein, ou l'effet de l'événement Wittgenstein, comme le disait Cavell. Il s'agit d'accéder à ce qui est moteur dans cette activité, à ce qui guide la description, c'est-à-dire cette ambition de dissiper les brumes des usages qui, parce que nous sommes justement impliqués en eux, investis en eux, parce que nous les habitons trop, ont perdu leur lisibilité.
Il y a une dimension très presque négative de la philosophie, en tout cas dans le Tractatus chez Wittgenstein, puisqu'il écrit quand même que le but de la philosophie est la clarification logique des pensées. Il va dire finalement nous n'avons pas grand-chose à dire, nous avons à démontrer aux autres qu'ils se trompent lorsque leurs raisonnements sont erronés. On aura l'impression qu'en faisant cela, nous n'avons rien appris, mais nous avons mis en œuvre une méthode essentielle qui est celle de la dissolution, ou en tout cas de la désignation des problèmes.
Ou mettre le doigt sur les confusions dont la métaphysique, l'histoire de la métaphysique est imprégnée.
C'est ça, c'est un travail de clarté, de clarification.
Voilà, et clarification qui vise pas à mettre en évidence des erreurs, mais de l'absence de sens. Et mettre en évidence l'absence du sens, là aussi c'est un trait de continuité très fort du Tractatus aux recherches. Dès le Tractatus, Wittgenstein défend une compréhension du langage en usage, c'est sans doute trop peu souligné, et il défend également que la langue usuelle fait partie de l'organisme humain. Donc il n'y a pas du tout d'oubli de la dimension incarnée et corporelle du langage dans le Tractatus. En revanche, quand il dit dans le Tractatus que toute philosophie est critique du langage, c'est qu'il s'agit bien de montrer déjà que dans certains usages, par exemple, prenons EST, c'est à la fois la copule, une affirmation d'existence, ça signifie également l'égalité. Or, la langue usuelle ne fait pas la part, ne nous renseigne pas suffisamment sur ces différentes acceptions. Si bien que le travail logique d'éclaircissement, de clarification logique du philosophe va consister justement à nous délivrer de cette équivocité.
Voilà, c'est ce qu'il annonce ou dénonce dès le premier paragraphe des Recherches philosophiques, donc en 1953, où en référence à Augustin, il va montrer de quelle façon la tradition philosophique a réduit le langage à la dénomination. Écoutez.
Augustin écrit dans ses Confessions, livre 1, chapitre 8, « Quand les adultes nommaient une certaine chose et qu'ils se tournaient grâce au son articulé vers elle, je le percevais et je comprenais qu'à cette chose correspondaient les sons qu'ils faisaient entendre quand ils voulaient la montrer. Leur volonté m'était révélée par les gestes du corps, par ce langage naturel à tous les peuples, que traduisent l'expression du visage, le jeu du regard, les mouvements des membres et le son de la voix, et qui manifestent les affections de l'âme lorsqu'elle désire, possède, rejette ou fuit quelque chose. C'est ainsi qu'en entendant les mots prononcés à leur place dans différentes phrases, j'ai peu à peu appris à comprendre de quelle chose ils étaient les signes. » Ce qui est dit là nous donne, me semble-t-il, une certaine image de l'essence du langage humain, qui est la suivante. Les mots du langage dénomment des objets. Les phrases sont des combinaisons de telles dénominations. Mais combien existe-t-il de catégories de phrases? L'assertion, l'interrogation et l'ordre peut-être. Il y a d'innombrables catégories d'emplois différents de ce que nous nommons signes, mots, phrases. Et cette diversité n'est rien de fixe, rien de donné une fois pour toutes.
Le pouce, le petit doigt et le pouce, ils sont tout lavés.
Voyons. Ah oui, il en reste un petit peu là sur le pouce.
Sur le petit doigt, le pouce, il est là.
Oui. Et là, comment tu l'appelles celui-là?
L'index. Le majeur.
La nuit.
L'air.
L'eau. L'ori.
Sontage.
L'auriculaire.
L'auriculaire. Il a dit l'auriculaire?
Non, l'horizontal, il dit.
Et voilà, pour apprendre à parler, là on est c'est un extrait du film « Être et avoir », le film de Nicolas Philibert sorti en 2002. On désigne un doigt et on demande à l'enfant d'en dire le nom. Et donc le petit enfant ici se trompe entre auriculaire et horizontal. C'est une conception du langage qui est celle de la dénomination. Un mot est là pour renvoyer à une chose. Comment peut-il en être autrement, Élise Marou? Ça paraît contre-intuitif.
Oui, alors je vais d'abord essayer d'expliciter l'image, la manière dont elle a été d'ordinaire comprise, et puis ensuite suggérer une série d'étonnements par rapport à la lecture, disons, traditionnelle de cette réponse de Wittgenstein à ce passage des Confessions. D'abord, dans les Confessions, cet apprentissage du langage est en général passé complètement pas inaperçu. C'est pas du tout un passage des Confessions qui intéresse le lecteur. l'heure, et c'est le passage de l'infantia à la pueritia, c'est-à-dire de l'infance, celui qui ne parle pas, donc il y a une distinction entre deux sens de l'enfance, au puer, à celui qui, justement qui a fait l'apprentissage du langage. Or, si on déplie simplement cette Darstellung, c'est-à-dire cette représentation de l'apprentissage, qu'est-ce qu'elle nous donne, comme dit Wittgenstein? Elle nous donne d'abord cette idée que l'apprentissage du langage repose sur l'apprentissage de la correspondance biunivoque des mots et des choses. Et c'est pourquoi...
Un mot renvoie à une chose, désigne une chose.
Exactement. Mmh. Et c'est pourquoi parler semble se réduire à nommer. Comme dit Wittgenstein dans la grammaire philosophique, Augustin fait comme si la nomination était l'alpha et l'oméga de l'apprentissage du langage. Or, dit Wittgenstein, celui qui se représente ainsi l'apprentissage du langage semble penser en premier lieu à des noms propres, et donc à des substantifs, sur le versant langagier, semble ensuite faire passer au second plan des activités, verbes sur le plan langagier. Or, on ne voit pas très bien dans cette image comment on enseigne à un enfant peut-être, la signification de peut-être, comment on lui enseignerait la négation, par exemple. Donc, ce que veut nous montrer Wittgenstein à partir de cette image, c'est que elle est juste seulement dans la mesure où elle décrit une partie de nos usages. C'est-à-dire, elle a une validité qui est beaucoup plus restreinte, qui est partielle, et elle ne vaut absolument pas, évidemment, comme représentation de l'apprentissage du langage comme tel.
C'est-à-dire que voilà, le langage n'est pas simplement un système de locution visant à désigner un monde extérieur, des entités extérieures, mais c'est aussi un contexte, des usages, une pratique en réalité. On ne peut pas penser le langage sans prendre en compte qui parle, à qui il parle, de quelle façon, sur quel ton, sur quel mode d'expression.
Oui, en effet. Alors c'est pour ça que l'extrait d'être et avoir était particulièrement bien choisi. C'est que Wittgenstein veut nous montrer progressivement et en réponse à cette image, dont il sait très bien qu'elle n'est pas celle d'Augustin, puisqu'il il sait très bien que dans le De Magistro, Augustin défend une compréhension de l'apprentissage, y compris du langage, qui est bien plus sophistiquée. Il pense que les Confessions sont le livre, je le cite, le plus sérieux qui ait jamais été écrit. Donc il n'estime pas qu'Augustin nous présente quoi que ce soit de rudimentaire. Simplement, il nous montre comment, à partir de cette description qui n'est pas une description technique, nous pouvons justement nous empêtrer dans la compréhension de la manière dont nos mots fonctionnent. Donc comment va-t-il substituer une compréhension de l'apprentissage qui est effectivement fondée sur le lien indissociable entre nos mots et un certain nombre d'activités, nos mots et un certain nombre de pratiques? Pour revenir à être et avoir, c'est quelque chose que Cavell a très bien montré aussi. Je n'apprends pas le sens de l'index en regardant simplement l'index. J'apprends ce que c'est que l'index par contraste avec les autres doigts et dans un contexte particulier qui va être celui justement de l'apprentissage de ce que c'est que justement montrer, désigner, prendre, saisir avec une main. Et Cavell dit très bien que c'est des échos qu'on entend aussi très clairement dans De la certitude, son dernier écrit de Wittgenstein, que l'enfant n'apprend pas qu'il y a là un siège, qu'il y a là une table. Il apprend à prendre, justement, une chaise, à commencer à écrire sur la table, etc. Autrement dit, ça veut dire que apprendre à parler, c'est toujours et déjà faire autre chose et plus que parler. C'est toujours apprendre à inscrire la parole dans un réseau d'activités qui, pour Wittgenstein, ne sont pas donc dissociables de l'inscription dans un contexte et ne sont pas du tout dissociables, justement, de cette entrelacement avec un système d'activités qui donne aux mots leur sens.
Est-ce que c'est comme ça qu'il faut entendre et comprendre l'expression de jeu de langage qui revient tellement dans les recherches philosophiques ?
Oui, exactement. Donc le jeu de langage nous dit d'une part la part sans doute plus enfantine que ludique du jeu. Elle insiste sur la manière dont le jeu de langage est toujours indexé sur des règles qui sont spécifiées, spécifiques pour chaque jeu de langage déterminé. Et enfin, le jeu de langage insiste, souligne sur l'arrimage dans notre nature de cet apprentissage. Donc il y a un point de limite au-delà duquel justement l'apprentissage, la bildung, la culture ne peut pas aller. Juste deux surprises quand même pour le texte d'Augustin. Les confessions décrivent cet apprentissage du langage, mais l'apprentissage, il faut le noter, je crois, par l'enfant, est silencieux. Donc, Augustin apprend à parler dans le silence et il apprend à parler sans qu'on lui enseigne. Évidemment, sur ces deux points, Wittgenstein va, pour ainsi dire, faire sauter un verrou qui consiste à montrer que, pour le dire de façon un peu abrupte, on ne peut pas faire comme si l'enfant avait déjà un premier langage qui serait celui de la pensée et que le langage public ne ferait que traduire et maladroitement et de manière appauvrissante. C'est exactement ce que Wittgenstein dit au paragraphe 32 des recherches. Augustin fait comme si l'enfant allait dans un pays étranger dont il ne comprenait pas la langue, comme s'il était déjà en position d'un langage, mais pas de ce langage-là. Or, c'est crucial, je pense vraiment, de noter que il y a un jeu ici avec la référence augustinienne, puisqu'il y a une proximité avec le De Magistro qui est très forte. Donc, le dialogue est là encore plus intime. Il n'est pas de l'ordre d'une réfutation, évidemment. Et il ne s'agit pas de dire que Augustin a mal compris quoi que ce soit de l'apprentissage. Il va s'agir, au contraire, à partir du paragraphe 2 des recherches, de montrer comment, à partir du jeu de langage numéro 2, d'un jeu de dalles poutres, donc c'est-à-dire d'un jeu de langage extrêmement primitif, vont venir se greffer des jeux de langage de plus en plus sophistiqués.
L'expression « jeu de langage » doit ici faire ressortir que parler un langage fait partie d'une activité ou d'une forme de vie. Représente-toi la diversité des jeux de langage à partir des exemples suivants et d'autres encore. Donner des ordres et agir d'après ces ordres. Décrire un objet en fonction de ce qu'on en voit ou à partir de mesures que l'on prend. Produire un objet d'après une description, un dessin. Rapporter un événement, faire des conjectures au sujet d'un événement, établir une hypothèse et l'examiner, représenter par des tableaux et des diagrammes les résultats d'une expérience, inventer une histoire et la lire, faire du théâtre, chanter des comptines, faire une plaisanterie, la raconter, solliciter, remercier, jurer, saluer, prier.
Hello.
We're the problem that is apt to spoil the trip, because when we get off the ship, we know we'll never understand the language. We won't be hip.
Oh, now, Miss Andrews, after due deliberation of your problem, all you do is woo and wobble them, which in any language always means a miss. A kiss.
And this?
Da Pontinha.
Hey, amigo. Now we know.
Now they know.
Yes, we know.
Now they know.
Yes, we know.
Now they know.
Supposing you need a vacation, Brazil is the place you should be.
So you can't understand what they're saying, or you can't read a sign that you see.
But you don't have to know the language.
You don't have to know the language. Ce sont les Andrews Sisters sur France Culture. Vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h23 et c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée au langage. Après Roland Barthes hier, c'est de Wittgenstein qu'il est question aujourd'hui, en présence, en compagnie de la philosophe Élise Maroux, qui enseigne la philosophie contemporaine et l'histoire de la philosophie moderne à l'université Paris-Sorbonne, à qui l'on doit une édition de La Certitude de Wittgenstein publiée aux éditions Ellipse. Et puis, je vous signale aussi le dossier de la revue Les Archives de Philosophie de janvier-mars 2016, qui propose un dossier intitulé « La vocation thérapeutique de la philosophie de Wittgenstein à Blumenberg ».
With the moon in the sky
and a girl in your arms
and a look in her eyes.
I know you don't have to know the language if you don't want to say goodbye. moon in the sky.
And a girl in your arms.
It's the look in her eyes.
You don't have to know. You don't have to know. The language isn't necessary, cause the meaning doesn't vary if you've got the charm it takes. The language isn't necessary.
Comment le concept de jeu est-il circonscrit? Qu'est-ce qui est encore un jeu et qu'est-ce qui n'en est plus un? Peux-tu indiquer des limites? Non. Tu n'as pourtant jamais ressenti aucune gêne lorsque tu as appliqué le mot « jeu ». Mais alors, l'application du mot n'est pas réglée. Et le jeu que nous jouons avec lui ne l'est pas non plus. Il n'est pas délimité sous tout rapport par des règles, mais il n'existe pas non plus de règles déterminant à quelle hauteur, par exemple, on est autorisé à lancer une balle au tennis ou avec quelle force. Pourtant, le tennis est lui aussi un jeu et il a lui aussi des règles. Ce n'est donc pas un jeu s'il y a du vague dans les règles. Mais n'en est-ce pas un malgré tout ? Peut-être diras-tu que c'en est un, mais de toute façon, ce n'est pas un jeu parfait. C'est-à-dire, le jeu comporte des impuretés, et ce qui m'intéresse est ce qui a été entaché d'impuretés. Je veux dire que nous nous méprenons sur le rôle que joue l'idéal dans notre mode d'expression, et cela veut dire que nous appellerions nous aussi « jeu » un tel jeu. Mais l'idéal nous aveugle et nous ne voyons pas clairement l'application effective du mot « jeu ».
Ce que fait le grand maître Fromm n'est pas contraire au règlement.
Écoutez, je suis ici à titre privé, le jury ne s'est pas encore réuni. Mais les soviétiques considèrent que les retards répétés du grand maître Fromm sont prémédités dans le but de gêner la concentration de son adversaire. Ils demandent l'annulation de la partie.
Enfin, c'est absurde. Pour gêner son adversaire, il faut être présent. Or justement, Fromm n'est pas là. C'est ridicule.
Que dit la lettre de Lipskind ?
À ma connaissance, il exige que les deux adversaires soient présents ensemble au début de chaque partie.
Ce n'est pas prévu par les protocoles. L'exigence de Lipskind n'a aucun fondement légal, vous le savez.
Le jury apprécierait si malgré tout le grand maître Fromm accédait à cette requête et que dans un geste d'apaisement, il fasse des excuses à son adversaire.
Mais s'excuser, mais c'est involontaire.
Ben, involontaire, mais systématique.
De quel côté êtes-vous ?
Les soviétiques menacent de se retirer.
Je vais vous l'écrire, votre lettre d'excuse. Les salauds, je ne veux pas leur donner des prétextes pour se défiler.
Voilà, l'avantage de l'expression de jeu de langage, c'est qu'elle fait ressortir que parler un langage pour Wittgenstein fait partie d'une activité, d'une forme de vie, dit-il dans l'extrait du paragraphe 23 des recherches philosophiques qu'on a entendu. Il fait toute une liste, hein, établir une hypothèse, représenter par des tableaux, inventer une histoire, faire du théâtre. On est ici dans des exemples de jeu de langage en acte. Mais le problème, c'est que le concept même de jeu n'est pas circonscrit. On ne peut pas établir des règles absolument précises et définies, comme le montre l'extrait de la Diagonale des Fous qu'on vient d'entendre, où ce sont deux joueurs d'échecs qui s'affrontent et l'un prend un malin plaisir, enfin il sait très bien ce qu'il fait, à arriver en retard systématiquement, ce qui déstabilise son adversaire. Or rien n'est écrit dans le règlement des échecs que celui-ci, que les joueurs doivent arriver à l'heure. Comme les règles ne sont pas absolument précisément établies, il y a un jeu à nouveau qui s'installe au sein du jeu et qui montre que finalement l'activité même qui est censée être extrêmement régulée est aussi un espace de liberté et de pratique qui n'est pas complètement soumis à l'autorité des règles, Élise Marron.
Oui, en effet, Wittgenstein répond ici de façon assez précise à Frege et il veut montrer qu'en réalité, on ne peut pas considérer que la déterminité du sens, que le fait que le sens soit déterminé, obéit à une loi du tout ou rien. C'est-à-dire que ce qui est important dans le passage du cahier bleu que vous avez lu, qui a été lu, c'est que les usages ne sont pas délimités sous tout rapport.
C'est dans les recherches philosophiques, hein ? Ouais.
Sous tout rapport, ouais. C'est-à-dire, il dira dans le cahier bleu que nous apprenons les mots dans certains contextes, et c'est à chaque fois cette qualification qui importe, parce que cela implique que l'apprentissage du jeu de langage ne se confond pas avec l'apprentissage de ces règles explicites ou de règles exhaustives. On peut très bien apprendre à exprimer la douleur sans que on nous ait jamais dit explicitement comment passer d'un aïe à la description circonstanciée d'une douleur beaucoup plus sophistiquée entre guillemets et moins liée à son expression naturelle la plus immédiate. Donc ce que Wittgenstein essaye de nous enjoindre vraiment à faire, c'est de trouver une voie qui est pas du tout un compromis entre cette idée que si le langage est réglé, si les jeux de langage soient réglés, ils doivent l'être de façon rigide et exhaustive, et l'idée que l'abandon même de ce caractère explicite et exhaustif devrait nous contraindre au chaos, à l'arbitraire. Ce qu'il nous montre plutôt, c'est que l'apprentissage du sens des mots est tributaire des circonstances et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, et que c'est cette inscription qui va permettre justement de rendre saillant certains aspects du jeu de langage et des concepts qui y sont immergés, qui y sont immiscés.
Donc ces règles sont absolument immanentes.
Exactement.
Mais alors comment s'assurer dans ce cas qu'elles fonctionnent pour tout le monde ? Il faut postuler une forme d'universalité de la nature humaine qui fait que même dans tous les contextes déterminés et singuliers, on arrive quand même à se comprendre et à communiquer ?
Alors c'est toute la difficulté. D'abord pour le jeu de langage, je pense qu'on peut reprendre ici une définition de Charles Travis qui dit que un jeu de langage, c'est une manière déterminée, spécifiée, que les mots ont de s'intégrer à la vie. Donc ça veut dire que, comme on l'a dit il y a quelques minutes déjà, que les concepts sont des manières d'être. Donc, c'est dire vraiment la profondeur avec laquelle il pénètre nos existences. Pour voir comment nous nous entendons, comment nous nous accordons, c'est le cœur des recherches de répondre à cette question, puisque comme vous l'avez très bien annoncé, en fait, l'introduction de l'absence d'une essence du langage unitaire semble impliquer comme conséquence irréversible une forme de scepticisme, d'arbitraire ou de conventionnalisme qui semble en découler de façon immédiate. Or, ce que Wittgenstein veut montrer, c'est que cette compréhension-là de la logique de la langue s'inscrit dans notre nature, mais pour autant ne remet nullement en question la nécessité de la logique. Mm-hmm. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre toute la difficulté et l'intérêt de sa seconde philosophie jusqu'à la fin de la certitude et des remarques sur la philosophie de la psychologie. C'est-à-dire comment répondre à Frege en maintenant que nos usages ne sont pas délimités sous tout rapport a priori, et maintenir pourtant qu'il y a bien une nécessité ancrée dans une anthropologie de cette même logique.
C'est ça, c'est que du coup, presque naturellement, enfin du langage, de l'usage que nous faisons du langage, va naître une forme quoi de communauté, d'accord, d'harmonie entre les individus qui font que nous pouvons dire que ce langage est le nôtre et pas seulement le mien.
Voilà, alors, pour reprendre le début de l'émission, Wittgenstein n'est pas un philosophe du langage, il n'y a pas le langage est nôtre, et dès lors, toute la question qui va se poser de façon obsessionnelle, dans les recherches philosophiques, dans les remarques sur les fondements des mathématiques, etc., ça serait la question de savoir si nous pouvons être confrontés à une logique autre, non pas à une tribu qui aurait d'autres usages. Il est bien évident que c'est le lot commun de tout anthropologue, et c'est pas en soi ça la difficulté. La difficulté, c'est celle de savoir si on pourrait être confronté à des lois de la pensée radicalement autres. Et Frege dit cette expérience de pensée n'en est pas une, parce que ce serait simplement une forme de folie. Et Wittgenstein y revient dans sa seconde philosophie en se demandant précisément si cette expérience de pensée a un sens. Autrement dit, quelque chose que Putnam, justement, dont il sera question.
Hillary Putnam, le philosophe américain qui est mort hier ou avant-hier. Oui.
Exactement, a extrêmement bien saisi dans son article Repenser la logique mathématique. Il a vraiment relu tout Wittgenstein à partir de cette intuition-là. C'est-à-dire montrer comment l'impossibilité de penser dans d'autres lois logiques ou lois de la pensée qui sont les nôtres, guide Wittgenstein dans toute la seconde philosophie, et comment cette compréhension de la nécessité ne va pas empêcher les lois de la logique d'autoriser ou d'intégrer des modifications. Et d'ailleurs, dans le paragraphe 23 des recherches, quand Wittgenstein insistait sur la diversité des jeux de langage, des catégories de phrases, il nous disait lui-même que les jeux de langage, certains jeux de langage voient le jour, naissent, d'autres vieillissent et tombent dans l'oubli. Et il songeait, il nous disait, de penser au changement en mathématiques, pour comprendre ces naissances, renaissances et ces différentes morts. Alors c'est exactement ce que disait Putnam à propos de Wittgenstein. Il y a une nécessité logique qui est inébranlable, celle des lois de la pensée. Donc il n'y a aucune forme de relativisme qu'on puisse mobiliser. Par contre, on ne peut pas prophétiser qu'on changera ou qu'on ne croira plus dans le principe de non-contradiction. En revanche, on peut très bien, non pas prophétiser, mais enrégimenter, valider des modifications de la logique qui guide justement notre pensée.
Posons-nous cette question. Si nous disions à quelqu'un « je serais ravi de vous voir », et si c'est vraiment ce que nous voulons dire, est-ce qu'un processus conscient fonctionne parallèlement aux mots, processus qui pourrait lui-même être traduit en paroles? Cela ne sera presque jamais le cas. Mais imaginons un cas dans lequel cela se passe en effet ainsi. Supposons que j'ai l'habitude d'accompagner chacune des phrases que je dis à voix haute en anglais par une phrase en allemand que je me dirai intérieurement. Si pour une raison ou une autre vous dites de la phrase silencieuse quel est le sens de celle que je dis à voix haute, alors en effet ce processus du vouloir dire, qui accompagne le processus de dire, serait lui-même traduisible en signes extérieurs. Ou bien avant chaque phrase que nous disons à voix haute, nous nous disons son sens par une sorte d'aparté. Mais ce qui fait que nous sommes tentés de penser le sens de ce que nous disons comme un processus, qui est essentiellement du type que nous venons de décrire, c'est l'analogie entre les formes d'expression « dire quelque chose » et « vouloir dire quelque chose » qui semble se rapporter à deux processus parallèles. Un des processus qui accompagne nos mots, que l'on pourrait appeler « processus qui fait qu'ils veulent dire quelque chose », c'est l'intonation avec laquelle nous prononçons des mots. Ou bien un autre processus semblable, comme le jeu des expressions du visage. Ces processus n'accompagnent pas les mots prononcés comme une phrase en allemand accompagne une phrase en anglais, mais au sens où la mélodie accompagne les mots d'une chanson. Cette mélodie correspond à ce que nous ressentons en disant la phrase. Et je tiens à souligner que ce sentiment est l'expression avec laquelle la phrase est dite, ou encore quelque chose de semblable à cette expression.
Qui est là? Qui lance des cailloux?
C'est moi.
Qui, moi?
Christian, je voudrais vous parler.
Non, vous parlez trop mal.
De grâce, à notre amour, cela serait fatal.
Non, vous ne m'aimez plus.
M'accusez juste Dieu de n'aimer plus quand j'aime plus.
Tiens, mais c'est mieux.
L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète que ce cruel marmot prit pour Barcelonnette. Barcelonnette.
C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau.
Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule.
C'est mieux.
De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents orgueil et doute.
Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous lentement, mon ami? Vos mots sont hésitants, pourquoi?
C'est qu'il fait nuit. Quoi? Dans l'ombre, à tâtons, il cherche votre oreille.
Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles.
Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi. Puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand. Vous, l'oreille petite, d'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps.
Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants.
De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude.
Je vous parle en effet d'une vraie altitude.
Certes. Et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur.
Je descends.
Non.
Grimper jusqu'ici alors vite.
Non.
Comment non?
Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir.
Sans se voir?
Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté. Et je crois vous parler pour la première fois.
C'est vrai que vous avez une toute autre voix.
Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. Et j'ose. Où en étais-je?
Merveille de cette pièce, Cyrano de Bergerac, et merveille de son adaptation au cinéma par Rapneau, hein, et surtout, quelle pertinence avec l'extrait du cahier bleu de Wittgenstein que j'ai lu juste avant, puisque finalement, présupposer qu'il y a une différence entre le vouloir dire et le dire, ou que le vouloir dire précède le dire, c'est raisonner comme s'il y avait en permanence dans la vie un Christian qui n'arrive pas à s'exprimer et un Cyrano qui va souffler à Christian les mots qu'il doit prononcer pour courtiser Roxane. On est là exactement dans ce que décrit Wittgenstein avec l'importance de l'expression du visage qui dit ce que nous voulons dire, mais comme il fait nuit justement, Christian, Roxane ne voit pas Christian, donc elle ne voit pas que c'est Cyrano. Donc tout cela paraît comme une illustration exacte de ce texte. Qu'en pensez-vous, Élise Marou?
Oui, l'extrait est extrêmement bien choisi aussi. Pour revenir sur la relation entre le vouloir dire et le dire, il n'y a effectivement pas pour Wittgenstein de précédence ni chronologique ni logique. Donc on ne peut pas du tout se représenter le vouloir dire comme une ombre antécédente de l'expression verbale, de la même façon qu'on ne peut pas du tout se représenter l'intention signifiante comme une forme de d'événement mental ou d'attention, de concentration mentale du sujet en lui-même qui déboucherait sur une extériorisation linguistique. Donc au fond, ce que Wittgenstein veut nous montrer, c'est le lien logique qui existe entre le vouloir dire, meinen, et l'expression.
Mais ça veut dire que l'intention ne précède pas l'expression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté, j'ai envie de dire quelque chose, et de l'autre, eh bien, j'arrive à dire ce que je veux dire. C'est que les deux sont complètement concomitants.
C'est pas une question chronologique. Donc, on peut pas le penser en termes de précédence ni de simultanéité. C'est-à-dire qu'en réalité, quand j'exprime caché sous le balcon mon amour pour Roxane, au fond, ce que je dis de cet amour va de plus en plus, mon intention de décrire cet amour s'ajuste de plus en plus finement au sentiment que je vais décrire. Et l'une des illusions que Wittgenstein a cherché à pourchasser durant toute son œuvre philosophique, c'est cette idée qu'il y aurait une forme de richesse intérieure du sentiment, que le langage serait impuissant à traduire, à retraduire dans tout son grain propre et dans toute sa finesse et sa subtilité. Et c'est pourquoi donc les traits de la physionomie, c'est ce qu'on voyait d'ailleurs dans l'extrait déjà des Confessions, le langage naturel à tous les peuples. Wittgenstein n'arrête pas, si on peut dire, les limites du langage à nos mots, puisque, et on le voit très bien quand on parle une langue étrangère, quand on a le sentiment de plus être ou d'être en défaut par rapport à notre langue naturelle, on essaye de compenser, d'ajouter par des mimiques, par des gestes, davantage que lorsqu'on parle sa langue naturelle, comme s'il y avait une forme de défaut de justesse dans les termes que nous employons.
Oui, allez-y, pardon.
Donc c'est pas simplement la question d'inscrire des mots dans un contexte, c'est que au fond la question de l'expressivité des traits physionomiques n'a rien de secondaire ni de contingent par rapport à la description de ce que c'est qu'un état de conscience, de ce que c'est qu'une intention, de ce que c'est que la joie ou la tristesse. Il y a de très belles remarques dans la dernière philosophie qui le montre très bien, dans laquelle Wittgenstein dit que à travers un visage joyeux, il y a une forme d'irradiation de l'émotion qui rend le concept de joie immédiatement visible et transparent.
Mais est-ce que ça veut dire que cette émotion n'existe pas tant qu'elle n'est pas exprimée par le visage ? Est-ce que ça veut dire que l'amour que Cyrano porte à Roxane ou que Christian porte à Roxane n'existe pas tant qu'ils ne mettent pas des mots pour le dire ?
Non, évidemment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de supprimer, évidemment, quoi que ce soit.
Toute forme d'intériorité.
Toute forme d'intériorité. Wittgenstein dit même dans les recherches que cette image elle-même, l'image de l'intériorité, c'est dans les paragraphes 423 et suivants, il ne la conteste absolument pas. Ce qu'il conteste, c'est un certain nombre de déductions philosophiques qui vont s'opérer à partir de cette image et qui vont devenir chimériques.
Comme le mythe du langage privé, par exemple ?
Alors, le mythe du langage privé, si on s'entend sur ce qu'il signifie, il joue le rôle dans les recherches philosophiques d'une contre-épreuve. C'est-à-dire, il s'agit de montrer qu'un langage qui serait privé de droit, c'est-à-dire compréhensible que par son locuteur, est en réalité une tentation. Nous sommes tous tentés, c'est pas une tentation exclusivement philosophique, nous sommes tous tentés d'imaginer que ce qui rend une signification juste, précise, exacte, prend d'abord sa source dans une forme de fort intérieur ou d'intériorité, et qu'ensuite il y a une opération de traduction et d'extériorisation. Or, Wittgenstein nous dit, s'il y a précisément une opération intérieure, s'il y a quoi que ce soit qui s'apparente à une pensée ou à un sentiment, elle n'est pas de l'ordre d'un ineffable, c'est-à-dire que contre-épreuve ce mythe-là au sens où il s'agit de montrer qu'on ne peut absolument pas faire l'expérience d'une, ce qu'il appelle d'une définition ostensive privée. Mmh. C'est-à-dire je ne peux rien désigner de moi à moi, que ce soit l'état qualitatif d'une émotion, d'un sentiment ou même d'une nuance de couleur qui me permettrait de comprendre ce que c'est que la joie, ce que c'est que le rouge, ce que c'est que aimer. En revanche, évidemment, il y a des sentiments cachés, il y a de l'inexprimable, il y a des sentiments qui ne seront sans doute jamais exprimés à d'autres ou à l'autre, mais ça ne veut pas dire que ces sentiments ne sont pas de soi à soi descriptibles et décrits. Mmh. Donc ça veut dire que il retravaille ainsi de manière très original, à mon sens, l'opposition reçue entre le vécu et le conceptuel. Il fait reculer, si vous voulez, la tentation qu'on aurait de poser une limite tranchée entre ce que je vis quand je suis amoureux, pour prendre cet exemple, et ce que j'en trahis ou j'en traduis ou ce que mon langage en véhicule.
Ça veut dire qu'il y a quand même, il reconnaît une part d'indicible dans l'existence humaine.
Alors, il y a une critique de l'ineffable qui, je pense, est très proche de la critique de Hegel, au sens d'une richesse qui serait perdue. En revanche, il y a de l'inexprimé, mais qui n'est jamais en droit inexprimable.
Donc, on pourrait, en droit, nous pourrions tout dire.
En droit,
il y a cette fameuse phrase qu'on cite souvent de Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire, comme s'il y avait une là pour le coup comme une règle du langage qui imposerait que ce qui relève de quelque chose qui n'est pas dissible doit rester sous silence, donc comme un refus d'affronter la difficulté, enfin ou plutôt la demande de reconnaître l'impossibilité de dire certaines choses.
Alors oui, donc ça c'est la question qui articule au fond moins le langage à la question de l'expressivité que le langage à ses limites. Et donc le langage a ce que Wittgenstein nomme à la fin du Tractatus et dans la conférence sur l'éthique, nomme la valeur. Et effectivement, on a de façon extrêmement compactée dans la conférence cette idée que Wittgenstein ramène aussi bien à Heidegger qu'à Augustin qu'à Kierkegaard, que la tendance à donner du front contre les limites du langage est la source même de ce que nous nommons éthique. Donc effectivement, sans cette tendance devant laquelle Wittgenstein dit qu'il tire son chapeau, sans doute que parler serait bien insipide.
Madame, quel est votre mot? Et sur le mot et sur la chose, on vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose, aussi de la chose et du mot. Devez-vous savoir quelque chose? Mais je parierai que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Voici quel est mon mot, et sur le mot et sur la chose, j'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose. Autrement la chose et le mot seraient pour moi bien peu de choses, mais je crois en faveur du mot pouvoir ajouter quelque chose.
N'en déplaise au texte de l'abbé de l'Athénien, mis en parole et en chanson par chanson plus bifloré, il n'y a pas d'un côté le mot et de l'autre la chose. C'est Wittgenstein qui vous le dit et vous le savez si vous venez d'écouter cette émission. Un grand merci à vous, Élise Marou, d'être venue nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous.
C'est un plaisir de vous écouter parler de Wittgenstein. Vous avez consacré un ouvrage qu'on trouve chez Ellipse, au texte de la certitude de Wittgenstein qui est disponible. Et puis on pourra vous lire dès septembre prochain aux éditions du CNRS, votre thèse qui sera publiée, Figure du solipsisme, la résistance d'un problème dans la pensée de Wittgenstein, évidemment. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie.
I reject metaphysics as a science. The idea of a science of metaphysics which knows things that neither science in the ordinary sense or common sense knows, that's what I reject. I don't reject metaphysical questions.
Ce dimanche, le 13 mars, le philosophe américain Hilary Putnam est mort à l'âge de 89 ans. De lui, il restera une œuvre immense qui croise à la fois la philosophie du langage, la philosophie de l'esprit et la philosophie des sciences. Mais à ça, il faudrait même ajouter la politique, l'éthique, la littérature ou encore la religion. Une œuvre aussi large que celle d'Aristote, aussi marquante et aussi créative, selon son ami et philosophe Martin Nussbaum, qui lui a rendu un très bel hommage hier. Une œuvre autrement dit profondément humaine. Et ce terme « humain » n'a rien ici d'un lieu commun et mérite qu'on le dise à propos de Putnam. D'abord parce que quand on parle de philosophie de l'esprit et du langage, on pense très vite à toute la dimension aride de la philosophie analytique anglo-saxonne, affairée à des histoires de logique qui, à force d'interroger le concret comme notre manière d'agir ou notre manière de parler, en devient bizarrement très abstraite. Or, dans la philosophie de Putnam, ce qui compte, c'est bien le contexte, le tohu-bohu, dit-il, du contexte qui ne supporte pas d'être réduit à une théorie. Et puis, ce terme d'humain n'a rien de facile pour parler de son œuvre, parce que, comme il le dit, la réalité impose bien ses exigences. L'homme doit bien trouver sa place dans cette réalité, dans ce tohu-bohu donc qui ne peut être tordu par la science, et c'est sûrement ce que Putnam a tenté de faire. Au cours des années, sa réflexion a ainsi elle-même évolué. Putnam s'est fait son propre critique, remettant sur le métier ses propres théories au contact du monde extérieur, élaborant des expériences de pensée comme celle de la terre jumelle ou du cerveau dans la cuve pour prouver l'importance de ce qu'il y a en dehors de l'esprit seul. Putnam aura ainsi enseigné que la philosophie nous aide à avoir une meilleure compréhension de ce qui nous entoure et peut-être ainsi à transformer notre manière de vivre.
Ce qui sonne étrangement familier avec le sujet du jour sur Wittgenstein. Merci de lui rendre hommage, Géraldine.
On mettra en ligne sur le site quelques ouvrages de Putnam.
Et c'est l'occasion de découvrir ces textes nombreux et vraiment passionnants. Merci Géraldine, merci Élise Marou et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au langage. Après Barthes hier et Wittgenstein aujourd'hui, demain, nous nous demanderons si l'on peut comprendre le langage animal, s'il existe un langage animal et ce que l'homme peut-on comprendre. Ce sera en compagnie du maître de conférence du département de philosophie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, Dominique Lestel. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des nouveaux chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales, cinématographiques concernant l'émission du jour, mais vous pourrez aussi la réécouter soit en ligne, soit la téléchargeant, la podcastant avant de l'écouter où vous voulez et où et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les comptes Facebook et Twitter de l'équipe des Nouveaux Chemins qui met en ligne quotidiennement l'émission du jour.